VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir. Le monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Nous sommes mercredi 13 juin 2018. Eric Manilakiza avec vous en direct de Washington. Voici d'abord les titres. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a quitté le centre de détention de la CPI à La Haye. L'Afrique du Sud a levé l'état de catastrophe naturelle décrété mi-février en raison de la sécheresse qui frappait la région du Cap. Le président américain Donald Trump a assuré que la menace nucléaire nord-coréenne n'existait plus. L'ONU poursuit les négociations au Yémen pour éviter une confrontation sanglante dans la ville de Hodeïda, bastion des rebelles houthis et cible d'une offensive saoudienne. Tout d'abord, le journal du Mondial 2018 qui débute demain en Russie, Yacouba Ouedraogo sera avec vous. Voilà, le monde va vivre en été, pas comme les autres. Yacouba, nous sommes à J-1 de l'ouverture du Mondial 2018, mais déjà, les choses bougent en Russie avec la désignation du trio États-Unis-Canada-Mexique pour accueillir la Coupe du Monde 2026, n'est-ce pas Yacouba?
Tout à fait Eric, bonsoir à tous. Le trio nord-américain a été désigné par les fédérations membres de la FIFA avec 134 voix contre 65 pour le Maroc. Le ticket États-Unis-Canada-Mexique va accueillir donc la première Coupe du Monde à 48 équipes pour le Maroc. Il s'agit de son cinquième échec après les revers de 1994, 98, 2006 et 2010. Le président de la CAF qui a porté cette candidature marocaine n'exclut pas l'immixtion du politique dans cet échec. Écoutons Ahmad Ahmad.
Je ne peux faire autrement, on a fait ce qu'on peut faire. Apparemment, c'est 45 pays en Afrique qui ont voté. Je pense que c'est honorable. Ce que j'avais toujours dit, avoir 100% actuellement, c'est très difficile. Et puis, vu les fortes pressions politiques en Afrique de certains chefs d'État, c'était pas évident.
C'était donc Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. 45 pays africains ont voté pour le Maroc sur les 54 fédérations membres de la CAF. L'un des parrains de la candidature marocaine, l'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell, se dit déçu. On l'écoute.
Les Africains au moins auraient dû saisir l'occasion pour dire voilà ce que l'Afrique peut offrir, cette émancipation africaine que nous revendiquons. C'était le jour de le montrer et là on a échoué. Et les Africains ont voté pour rajouter une Coupe du Monde aux autres et non pas pour l'organiser nous-mêmes. Il vaut mieux tomber les armes à la main et j'aurais préféré que l'Afrique n'ait que 54 voix, mais 54 voix africaines, ça aurait été significatif.
Joseph Antoine Bell, l'un des parrains de la candidature marocaine.
Oui, Yacouba, on ne pourra pas chanter Zamina Mina et
malheureusement.
Waka waka. Oui. 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais bien avant, Russie 2018 commence dès demain.
Oui, Eric, la succession de l'Allemagne, vainqueur du Brésil 2014, va s'ouvrir dès demain, vous l'avez dit. Amdinsi, notre consultant sportif, est présentement en Russie, précisément à Kalouga, au QG des Lions de la Teranga. Il est en direct dans ce journal. Bonsoir, Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci d'être avec nous. Demain aura lieu la cérémonie d'ouverture suivie du premier match entre le pays hôte, la Russie et l'Arabie Saoudite. Le mondial, c'est avant tout la fête du ballon rond. Amdine, dites-nous, est-ce que vous sentez véritablement que la fête va bientôt commencer?
Tout à fait, elle a déjà commencé puisque la fête bat son plein au niveau de Moscou. La Russie est au rythme de la grande messe du football continental Yacouba. Il suffit de faire des tours dans la ville, que ce soit à Kalouga ou à Moscou. Vous apercevez les affiches, les drapeaux et les effigies des joueurs tels que Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah et Sadio Mané. Leurs portraits sont visibles partout dans la ville, ce qui témoigne de l'ambiance et de l'enthousiasme qui règne au pays du président Poutine. D'ailleurs, l'ambiance est montée d'un cran puisque à la veille du coup d'envoi de la 28e édition de la Coupe du Monde. On ne parle que de la Coupe du Monde partout, dans les bars, dans les restaurants, le sujet est la Coupe du Monde. Les Russes et les étrangers qui ont débarqué dans ce pays ont hâte de voir démarrer cette compétition très relevée. Donc en ce moment, on ne parle que de la Coupe du Monde. Au niveau de Kaloga, où l'équipe nationale du Sénégal, le camp de base, également, c'est la fête partout, c'est la fête, on est en train de fêter les Lions du Sénégal qui ont foulé la, le tarmac de l'aéroport.
Merci bien, merci bien, Amdine, on vous aura très bien compris. Bonne suite à vous et bonne chance aux Lions de la Teranga ainsi que les quatre autres représentants africains à ce mondial. Là, 32 équipes sont en liste, dont 5 africaines, donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Et pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui s'est dit confiant. On écoute Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays. Essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
Voilà donc pour ce qui est de l'actualité sportive du côté de la Russie, Eric.
Voilà, c'était le journal du Mondial 2018 avec Yacouba Ouédraogo. Le grand rendez-vous, c'est demain en Russie. 32 équipes au total, dont 5 africaines. C'est un événement que vous fera vivre Véroa Afrique. Maintenant, le reste de l'actualité dans le monde. Liberté retrouvée pour Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président congolais a quitté le centre de détention de la CPI à La Haye. C'est à la suite de son acquittement en appel de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. N'est-ce pas, Bagasikoura?
M. Bemba a quitté le centre de détention hier soir, a déclaré son avocat Peter Hens, ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président de la RDC. M. Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison par la CPI pour des meurtres, viols et pillages commis par sa milice en Centrafrique. Cependant, M. Bemba reste sous la surveillance de la cour en attendant le feu vert des autorités belges. À une demande de séjour, l'ancien vice-président doit en effet traverser la frontière pour rejoindre son épouse et ses 5 enfants installés en Belgique. L'AFP rapporte qu'une demande de permis de séjour est examinée ce mercredi à Bruxelles par le service du secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Par ailleurs, la Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'€1 million pour les victimes centrafricaines des rebelles du MLC de Jean-Pierre Bemba.
Bagassi Koura, la décision de la CPI intervient à un mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila. Nous sommes en RDC. Kabila arrivé au terme de son deuxième et dernier mandat en décembre 2016. Le directeur général de l'OMS a appelé Kinshasa à renforcer la vigilance et la surveillance à propos de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. À la fin d'une visite de 3 jours, il a constaté que la situation s'est stabilisée dans le nord-ouest du pays. La marche des avocats tchadiens, prévue samedi dans la capitale de N'Djamena, a été interdite pour raison de sécurité par les autorités. La grève des avocats, notaires et huissiers de justice se poursuit depuis le 31 mai. Ils avaient rejoint celle des magistrats entamée 3 jours plus tôt. Les deux principaux partis politiques d'opposition en Guinée équatoriale ont posé des conditions pour participer au dialogue politique. Les partis citoyens pour l'innovation et convergence pour la démocratie sociale réclament la libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale. Le président Teodoro Obiang Nguema a convoqué lundi un dialogue politique en juillet pour préserver la paix et le développement. Malabo veut aussi inciter la diaspora de rentrer sans craindre leur appartenance politique et légaliser certains partis d'opposition. L'armée malienne, nous sommes dans le Sahel, a annoncé avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays. Cette région est particulièrement touchée par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Le ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, a indiqué que l'armée a aussi récupéré l'armement, les engins explosifs et autres matériels de guerre. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu jusqu'au 14 juin pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. 84 accusés ont comparu ce mardi, mais deux accusés, dont l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré, se sont retrouvés sans conseil après le départ de leurs avocats. Les autres avocats ont souhaité un renvoi de temps de trouver de nouveaux défenseurs. La Cour constitutionnelle du Togo a appelé le gouvernement et la commission électorale à organiser des élections législatives d'ici à la fin de l'année, comme prévu par la Constitution. Le dialogue politique est censé sortir le pays de la crise qui traverse depuis un an. L'Afrique du Sud a levé l'état de catastrophe naturelle qui a été décrété mi-février en raison de la grave sécheresse qui sévissait dans la région du Cap. Le point avec Marie Benson.
Le ministre des Affaires traditionnelles, Zweli Mrive, n'a pas renouvelé l'état de catastrophe naturelle qui a expiré aujourd'hui en Afrique du Sud. À la mi-février, la mesure a été décrétée dans tout le pays, alors que le Cap était menacé d'une rupture d'approvisionnement en eau potable suite à une grave sécheresse. Grâce à une réduction drastique de la consommation d'eau par les habitants, le jour zéro, où la coupure d'eau totale des robinets, a été évitée. Ces dernières semaines, il y a eu d'importantes pluies sur la région du Cap, ce qui a permis un retour à la normale. Le niveau des barrages et des cours d'eau sont plus élevés que l'an dernier, mais les habitants continuent leurs efforts sur la consommation d'eau à cause de l'incertitude avec les précipitations.
Les États-Unis ont demandé au Kenya de mieux lutter contre les investissements sur son sol des riches élites sud-soudanaises.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, Washington espère que l'essentiel du désarmement nord-coréen interviendra d'ici fin 2020, avant la fin du mandat de Donald Trump, a déclaré à Séoul le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Les détails, c'est Mike Pompeo. Les détails avec Nathalie Barge.
Le président Donald Trump est revenu ce matin à Washington. Dans un tweet, il assure qu'il n'y a plus de menace nucléaire de la Corée du Nord. Hier à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document dans lequel la Corée du Nord s'engage en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Cette formulation a été critiquée par les experts car elle ne mentionne pas les conditions de Washington voulant que la dénucléarisation soit vérifiable et irréversible. Interrogé sur cette absence, Mike Pompeo, qui se trouvait à Séoul, a assuré que cela était inclus de facto dans le terme complète. Le secrétaire d'État américain dit avoir bon espoir d'y parvenir dans les 2 ans et demi à venir, mais selon lui, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Le président américain Donald Trump a accusé dans un tweet l'OPEP de faire monter les prix du pétrole. Au Yémen, les forces loyales au gouvernement appuyé par les Émiratis et les Saoudiens ont lancé leur offensive sur le port stratégique de Hodeïda, contrôlé par les rebelles Houthis. L'émissaire de l'ONU et plusieurs ONG se disent extrêmement inquiets pour la population. Le point avec Idriss Fall.
Le grand port de Hodeïda sur la mer Rouge est un enjeu stratégique, point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen. Martin Griffiths, émissaire de l'ONU, se dit extrêmement préoccupé et a appelé à la retenue. Une quinzaine d'ONG ont exprimé leur vive inquiétude face à cet assaut sur une cité de 600 000 habitants. Save the Children et l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme pour quelques 300 000 habitants dans cette ville. Amnesty International estime que l'opération militaire menace les civils et les opérations humanitaires. Le comité international de la Croix-Rouge a affirmé qu'elle ne ferait qu'exacerber une situation déjà catastrophique. La France rappelle que seule une solution politique négociée, y compris à Hodeïda, permettra de mettre fin de manière durable à la guerre qui dure depuis 3 ans au Yémen.
Idriss Fall, le Saint-Siège va être doté d'une nouvelle constitution pour régir le fonctionnement du gouvernement de l'Église. 9 cardinaux conseillers du pape François de tous les continents ont été chargés d'élaborer le texte qui doit réformer le fonctionnement de la curie. Une première version dont le titre provisoire est Praedicat Evangelium va être remise au pape François.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef rebelle et vice-président congolais a quitté la CPI après son acquittement. Eddie Isango, adjoint à Paris, la responsable adjointe de la justice internationale de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme FIDH, Delphine Carlens.
Nous accueillons plutôt positivement cette décision du fonds d'accélérer ce programme d'assistance à ces victimes qui ont tout perdu dans les attaques de 2002 et 2003 et qui ont subi de graves souffrances physiques et psychologiques et qui sont encore aujourd'hui stigmatisées et rejetées par leur communauté.
1 million de dollars pour les victimes, sont-ils assez pour autant de personnes?
On parle de milliers de victimes, non seulement des troupes du MLC, mais de tous les partis au conflit qui a fait rage en RCA en 2002 et 2003. Ça sera effectivement un programme d'assistance qui aura pour but de donner une sorte de forme de réhabilitation physique et psychologique. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chaque victime, mais plutôt probablement des programmes de soutien médical, de soutien psychologique, peut-être de programmes de sensibilisation à l'égard des communautés, de manière à justement atténuer la stigmatisation qui résulte, notamment des violences sexuelles qui ont été subies en grand nombre. Probablement, ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chacune des victimes, mais plutôt une assistance globale qui pourra bénéficier à un grand nombre de victimes. Mais nous attendons encore effectivement des précisions sur les types de projets qui seront mis en œuvre.
On a enregistré dans d'autres procès des revendications après que les victimes aient été indemnisé. Est-ce qu'on ne craint pas que ça puisse être le cas pour ces procès-ci?
Nous espérons en tout cas que les programmes mis en place seront définis en prenant en compte toutes les demandes et les préoccupations et les demandes des victimes afin qu'elles répondent au mieux à leurs besoins et à leurs préoccupations et de manière à ne pas créer effectivement de trop grosses déceptions. Il faut évidemment reconnaître qu'elles attendent depuis plus de 15 ans des formes de réhabilitation et de soutien qu'elles n'ont pas. Le défi est grand pour essayer de répondre au mieux aux besoins.
Vous dites que l'acquittement puis la libération pour l'histoire de M. Jean-Pierre Bemba était un choc. En quoi le maintien de celui-ci en détention aurait soulagé les victimes?
C'est surtout le verdict en lui-même, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons ces derniers jours exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des 3 juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation du statut de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire.
Bemba libéré, certains craignent pour lui par rapport à la situation qui prévaut en RDC, qu'en dites-vous?
Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant, par contre, par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
Delphine Carlens, responsable adjoint de la justice internationale de la FIDH à Paris.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Haute-Guinée, des affrontements sont récurrents entre les populations locales. Le plus souvent, l'accès à la terre est l'une des causes pour la recherche de l'or ou la culture de cajou. Pour faire le point, Idriss Fall a joint Amadou Thiam, journaliste à Kankan, dans le nord de la Guinée.
L'orpaillage artisanal est très développé. C'est quelque chose qui n'est pas interdit par l'État. Et les populations profitent pour se faire un peu d'argent. Et sous-préfectures, des districts s'affrontent des fois pour dire bon, telle partie appartient à mon district, telle autre partie appartient à ma sous-préfecture, etc., etc. Des conflits comme ça très récurrents. Prenez par exemple la sous-préfecture de Tchébakoua où il y a eu des affrontements entre un secteur et un district, le district de Kokou et le secteur de Sananfra. Le secteur de Sananfra et le district de Kolé réclament la même zone d'exploitation. Il y a eu des blessés. Il y a plus d'une centaine de motopompes qui ont été brûlées. Et ce différend existe il y a de cela une dizaine d'années et la justice avait déjà tranché entre ces deux populations. La justice des fois tranche et les populations n'acceptent généralement pas de respecter les décisions de justice. Un autre cas très récent, c'est entre, par exemple, Fissakolé et Nyandankoua, où on parle encore d'affrontements qui ont fait état d'un mort et d'une vingtaine de blessés. Il y a de cela environ 72 heures que le ministre de l'administration du territoire, il y avait des problèmes. Le ministre de l'administration du territoire avait fait un déplacement pour que ces populations-là se réconcilient afin vraiment qu'il y ait la paix et la quiétude sociale dans la région.
Mais en dehors de ça, il y a aussi des affrontements liés à la terre et à la culture de l'acajou.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant, en Guinée, était aux environs de 2 000, 3 000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6 000, 7 000, 8 000, des fois voire même 10 000. Alors les gens, un peu partout, des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exportation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui sévissent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et aux terres liées pour l'exploitation minière.
Amadou Thiam, journaliste à Kankan, dans le nord de la Guinée.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pour terminer en beauté, un retour sur la Coupe du Monde de football de Russie 2018 qui démarre demain. Le continent africain est représenté par 5 équipes, dont le Sénégal, un pays qui a vu la création ces dernières années de centres de formation comme Génération Foot. 3 de ses ex-pensionnaires sont dans l'équipe sénégalaise, les Lions de la Teranga. Parmi eux, la star de Liverpool, Sadio Mané, qui fait la fierté de tout le centre. Abdourahman Dia est allé rencontrer les différents lauréats au sein de ce centre. Suivez.
Une séance d'entraînement pour des jeunes qui aspirent à suivre les pas de grands noms du football sénégalais qui, il y a quelques années seulement, étaient passés par ce même centre. Des jeunes rêveurs et motivés à devenir footballeurs professionnels et porter un jour le maillot national. Amadi Lamine Conté, 21 ans, est à Génération Foot depuis 4 ans.
Si on voit certains joueurs qui étaient ici et jouer à la Coupe du Monde, ça nous fait une fierté parce qu'on a eu à côtoyer certains joueurs comme Ismaël Sarr qui était ici avec nous. Donc si on le voit jouer, jusqu'à marquer des buts en équipe nationale, c'est, je peux dire que c'est notre fierté. Quoi.
Un rêve porté par Madi Touré, le fondateur de Génération Foot, en partenariat avec le club français du FC Metz.
Quand on prend ces jeunes à bas âge, qu'à la sortie, ils réussissent, ça peut que nous faire plaisir et une motivation supplémentaire, ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire est un bon travail. Et nous voulons continuer. continuer à sortir des joueurs comme Sadio Mané, mais plus fort que Sadio Mané.
Le centre accueille aujourd'hui 120 pensionnaires qui allient études et sport. Et pour le formateur Abdoulaye Sarr, le football sénégalais devra désormais compter avec ses académies.
Aujourd'hui, il faut dire que quand on voit la configuration de notre équipe nationale pour Russie 2018, mais nous voyons exactement que c'est des jeunes, pour la plupart, nés ici, même s'il y a des Sénégalais nés à l'étranger, surtout en France, mais la part de jeunes formés au Sénégal, nés au Sénégal, à cette part domine largement dans l'effectif qu'il y a. C'est le travail des clubs, mais aussi des centres de formation qui, depuis quelques années, sont installés ici.
Et le manager général Olivier Perrin voit même une amélioration des conditions depuis la création du centre.
Quand j'ai reçu Sadio Mané à Metz, c'était face à Co. Ils n'ont pas travaillé sur ces structures ici. Et ces garçons-là ont été obligés de faire un an et demi de centre de formation avant de pouvoir postuler à jouer en professionnel. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qu'on envoie aujourd'hui qui vont directement en professionnel et qui sont beaucoup plus prêts à partir. Voilà.
Ces jeunes footballeurs vont donc suivre cette Coupe du Monde dans l'espoir d'être un jour à la place de ceux qui les ont précédés au centre. Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
Merci Abdourahmane. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Lomami. À la console, Shadrach Franklin. À la présentation, Eric Maniakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité. 24 heures sur 24. Agréable soirée chez vous et à très bientôt.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, à Rakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisations terroristes, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulaye Yaré, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquête et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.